Donc, je vous propose qu'on ouvre notre Bible en Matthieu, après, je veux dire quel chapitre. mais peut-être avant, dire que on va commencer, on va faire une petite série, peut-être sur ce qu'on appelle dans la Bible, ce qu'on a appelé, plutôt certains ont appelé, les paraboles du royaume. Hein? Alors, les paraboles du royaume sont les paraboles que l'on trouve en Matthieu, chapitre... Parabole, c'est où ? Il y a beaucoup de pas. Non, pas 5. 5, ça, c'est le sermon sur la montagne. Mais il y a un chapitre où il y a une série de paraboles, au milieu, à peu près au milieu du livre. C'est le chapitre 13. Le chapitre 13, hein, de Matthieu. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez retenir. Chapitre 13 de Matthieu, il y a des paraboles qui sont racontées. Alors, cela s'appelle, on appelle ces paraboles souvent les paraboles du royaume parce que Jésus dit « le royaume des cieux est semblable à ». Hein, vous rappelez cette expression déjà, hein, « le royaume des cieux est semblable à ». Et donc l'enseignement de Jésus dans ce chapitre se fait sous forme de paraboles. Mais le Seigneur Jésus a enseigné de différentes manières. Quelqu'un a cité Matthieu chapitre 5 tout à l'heure. Ça, c'est dans le sermon sur la montagne. Il a enseigné avec un certain nombre, on appelle ça des propositions. Hein. Il a dit des choses. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc, il a dit des choses comme cela. Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, et puis tu pries, et ton père qui est dans les lieux secrets te le rendra. Donc, c'est vraiment des exhortations un peu directes. Et puis, il y a d'autres fois où il a enseigné avec des images, hein, on pourrait dire des illustrations. Et ici, ce qui nous concerne, des paraboles. Et le chapitre 13 contient un certain nombre de paraboles de Jésus. Au total, à peu près 7 paraboles. Hein, donc, chapitre 13, 7 paraboles. Et on appelle ça les paraboles du royaume. Par Matthieu 13, 34, par exemple, il dit « le royaume des cieux est semblable à... » Et puis ensuite, il décline à quoi le royaume des cieux est semblable. Donc, ce sont des paraboles qui sont faites, on pourrait dire, pour décrire le royaume de Dieu. Alors, question, je vais vous poser. Est-ce que vous aimez les paraboles de Jésus, je parle ? Est-ce que vous aimez les lire ? Oui ? Est-ce que vous trouvez que c'est facile à lire ? Non ? Alors, oui, tu as dit ? Oui, d'accord. Alors, vous allez dire oui ou non, comme vous trouvez, hein, j'accepte les deux réponses. Une question que, pour vous, c'est quoi une parabole ? Parce que vous allez imaginer un enfant vous dit, mais c'est quoi ? J'ai vu les paraboles de Jésus, c'est quoi les paraboles ? C'est une histoire qui illustre une vérité. Donc, c'est fait pour illustrer une vérité. Alors, est-ce que, par exemple, c'est une illustration, une parabole, alors ? Parce que c'est fait pour illustrer. Par exemple, quand on donne une illustration de quelque chose, d'une vérité, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est censé faire ? On donne, oui, quelque chose qui va permettre de faire quoi ? De ? Oui, faciliter la compréhension. Par exemple, il y a une vérité qui n'est pas évidente, et pour la faire comprendre, on prend une illustration. D'accord ? Je me rappelle, on parlait avec quelqu'un, et puis Jean-Pierre, il a dit, dans la discussion il n'y a pas très longtemps, on parlait de relations entre frères et sœurs, et puis Jean-Pierre a dit, bon, tu as vu les cailloux dans la rivière ? Eh bien, ils sont jamais avec des angles, hein. Ils sont toujours ronds. Pourquoi ils sont ronds? Parce que les cailloux se frottent les uns contre les autres et ça permet d'arrondir les choses. C'est une image, c'est une illustration très belle qui permet de comprendre la vérité, qui dit que bon, on a besoin de, c'est en se frottant avec les uns les autres que, voilà, qu'on apprend la sanctification et toutes ces choses. Donc c'est une illustration qui rend plus clair ce que, le Seigneur veut enseigner. Est-ce que la parabole fait la même chose? Oui? Alors, en fait, non. En fait, non. Bon, déjà, on va dire ce qu'une parabole n'est pas. Hein. Une parabole, ce n'est pas une fable. Vous connaissez les fables. Qui c'est qui a appris les fables à l'école? Les enfants, vous avez appris les fables à l'école. Hein. Fable de qui, par exemple? De La Fontaine. Donnez-moi une fable de La Fontaine que vous connaissez. La cigale et la fourmi. Donc, c'est quoi? Une autre fable de La Fontaine que vous connaissez? Le corbeau et le renard. Une autre que vous connaissez? Le lièvre. Voilà, donc vous avez, à chaque fois, c'est quoi ça? Ce sont des animaux, souvent, hein, parfois que la fontaine fait parler, il les fait parler, pour tirer une leçon de morale. Hein. Donc la cigale et la fourmi, c'est pour tirer une morale sur la paresse, hein, le fait de travailler. Hein. Le corbeau et le renard, c'est sur la flatterie, par exemple, des choses comme ça. Hein. Donc, une parabole, ça n'est pas la même chose. Hein. Une parabole, ça n'est pas une histoire qui fait parler des animaux pour tirer une leçon de morale. Vous connaissez aussi les allégories. Hein. Vous avez lu les allégories de qui? John Bunyan, on a lu le voyage du pèlerin, d'accord, dans ce livre. Donc, si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage à le lire. Hein. C'est une allégorie. C'est quoi une allégorie? Une allégorie, c'est une histoire qui est racontée et dans laquelle chaque détail a une signification. Hein. Ou par exemple, les chroniques de Narnia, j'ai jamais à dire ça. Narnia aussi, hein, de C.S. Lewis, c'est pareil. Hein. Donc, ce sont des allégories et chaque chose a une signification souvent spécifique. Même presque chaque petit détail a une signification. La parabole, dans une parabole, les détails n'ont pas forcément une signification précise, en tout cas pas chaque détail ici. Donc la parabole, ce n'est pas juste une illustration, ça n'est pas non plus une fable, ça n'est pas une allégorie. Alors on pourrait demander, mais c'est quoi alors? Et ce sont quand même des histoires. Ce sont des histoires qui sont prises de la vie réelle. Les gens peuvent se reconnaître dans ce qui est raconté la plupart du temps. Et le but est d'éclairer une vérité spirituelle. Mais pas que, quand même. Pas que. Donc, disons que ça, la parabole enferme une vérité spirituelle. C'est une histoire de la vie de tous les jours. Hein. Vous vous souvenez des différentes paraboles que Jésus a racontées. On va en voir une. Et ça s'est fait pour éclairer une vérité spirituelle. Mais pas pour tout le monde. C'est ça qui est particulier à la parabole. Alors, pourquoi est-ce que Jésus enseigne en parabole? Ça n'est pas, puisqu'on a dit que c'est pas une simple illustration, est-ce que c'est pour rendre plus clair son enseignement? Non. Parce que ça cache quand même des choses. Est-ce que c'est pour faciliter la compréhension? Non. Est-ce que c'est pour rendre plus vivant? Il y a des gens qui disent, moi j'aime bien l'enseignement de Jésus parce que c'est plus vivant. J'aime bien quand il y a des images, c'est vivant, on peut s'accrocher aux choses et on comprend davantage. Mais quand on lit la Bible, ce n'est pas tout à fait le sens que Jésus donne aux paraboles. Les disciples eux-mêmes étaient intrigués par le fait que Jésus parle en parabole. On va lire Matthieu chapitre 13 et au verset 3, je vous lis, il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, et au verset 10, la Bible dit, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Quelque part, ils sont quand même intrigués de cette forme que Jésus emploie pour parler aux gens. Et pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés? Parce que la parabole quand même a un côté un peu obscur. On comprend l'histoire extérieure, mais on ne comprend pas forcément tout de suite la réalité intérieure qui est censée représenter cette parabole. Alors, si vous lisez Matthieu, par exemple, chapitre 11, chapitre 12, on peut voir que Jésus a beaucoup de conflits avec les Juifs, particulièrement avec les chefs religieux. Et jusque-là, il parle, il dit des choses, hein. Tout le sermon sur la montagne, on pourrait dire c'est en décodé, c'est clair, hein, ce qu'il dit. Mais au fur et à mesure, on voit Jésus qui a des conflits avec les pharisiens, surtout sur le sabbat. Chapitre 12, regardez au chapitre 12, hein, à partir de Matthieu chapitre 12, il est question du sabbat, les disciples reprochent à Jésus de ne, les disciples, les pharisiens, pardon, reprochent à Jésus de ne rien faire contre ses propres disciples qui violent, selon eux, le sabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont glané des épis et puis qu'ils mangent des épis. Verset 2, il dit, les pharisiens voyant cela lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Donc il se confronte avec Jésus, il s'oppose à lui un peu. Et puis plus tard, ils réfléchissent sur verset 9 à verset 14, sur la manière, le voit verset 14, la manière de le faire mourir, parce qu'il a fait une guérison, verset 9 à 13, il a accompli une guérison le jour du sabbat, il a guéri l'homme qui avait la main sèche, vous vous rappelez peut-être de cette histoire ici. Donc, il cherche une manière de le faire mourir. Ensuite, à partir du verset 22, on voit, Matthieu 12, on voit que le peuple amène à Jésus un démoniaque et il va le délivrer. Et les scribes qui, il y a des scribes qui sont venus, hein, l'évangile de Marc le dit, qui sont venus depuis Jérusalem jusque là pour voir Jésus et le confronter. Et ils disent, verset 24 de Matthieu 12, les pharisiens ayant entendu cela, ce que Jésus a dit au verset 23, ce qu'il a fait, etc., ce que la foule disait, les pharisiens ayant entendu cela, dire, cet homme ne chasse les démons que par le Belzébul, le prince des démons. Là, ils sont arrivés à un comble, hein, de l'opposition qu'ils ont contre Jésus. Ils le rejettent systématiquement. Ils voient ce qu'il fait, ils ne mettent pas en doute les miracles qu'il fait, mais ils ne le reconnaissent pas comme le Messie. Ils le rejettent ouvertement, jusqu'à dire que ce qu'il fait, ça ne vient pas de Dieu. Vous rappelez-vous Nicodème qui avait dit quoi à Jésus ? Il avait dit, un homme ne peut faire ce que tu as fait s'il ne vient de Dieu. Il faisait partie des chefs religieux. Donc les chefs religieux savaient bien que telle chose, un tel homme ne pouvait venir que de Dieu. Mais dans le fond, ils le rejettent volontairement. Ils sont incrédules. Ils sont opposés à lui. Et ils vont jusqu'à dire finalement que ce qu'il fait, c'est par le prince des démons. Et là, Jésus fait un exposé, si vous regardez verset 25 jusqu'au verset 30, où il montre le caractère ignoble de ce qu'ils viennent de dire, le non-sens dans ce qu'ils viennent de dire. Et il termine avec ceci, verset 31, et il dit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Car quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle et ni dans le siècle à venir. » Et à partir de là, Jésus change de manière de parler. Et on arrive au chapitre, il dit encore quelque chose, mais on arrive au chapitre 13, et au chapitre 13, il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, et il monta sur la barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole. Et il raconte une histoire. Et les disciples, à la fin de l'histoire, ils sont scotchés. Ils disent, mais pourquoi tu parles en parabole ? Jusque-là, c'était clair, hein, serment sur la montagne, pourquoi tu leur parles en parabole? Et regardez ce que Jésus dit au verset suivant. Il dit, verset 11, Jésus leur répondit, pourquoi je parle en parabole? Parce qu'il vous est donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc il y a quelque chose qui devient volontairement, ici on pourrait dire intentionnellement, obscur de la part de Jésus. On va enlever à celui qui a, on va donner à celui qui n'a pas. Vous pouvez comprendre, eux, ça ne leur est pas donné. Donc je leur parle en parabole. On aurait pu dire, mais il faut parler encore plus clair pour eux, pour qu'ils puissent comprendre. Il dit, non, il dit, ça ne leur a pas été donné à vous, ça a été donné. Il dit au verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, c'est Ésaïe chapitre 6, il dit, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 16, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Et Jésus dit quelque part que ce qu'Ésaïe a prophétisé, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va parler en parabole afin qu'ils entendent. Ils vont entendre la parabole. Ils vont comprendre extérieurement la parabole. C'est pas compliqué à comprendre, la parabole. Mais ils ne vont pas comprendre la substance spirituelle qu'il y a là-dedans. Mais vous, vous pouvez comprendre. Vous pourrez comprendre. Et Jésus, on le voit ici dans la parabole qu'on n'a pas lue, qu'on a sauté, du verset 4 au verset 9, la parabole des terrains, il va leur expliquer plus tard ce que c'est que la parabole des terrains. Mais en public, il parle en parabole. Donc les gens, ils ont entendu l'histoire, ils ont compris l'histoire, mais ils n'ont pas compris la réalité spirituelle. La réalité spirituelle vient après, Jésus l'explique à ses disciples. On pourrait dire donc que la parabole a une double vocation. À la fois cacher la vérité et à la fois révéler la vérité spirituelle. Pour les incrédules, elle cache la vérité. C'est juste une histoire qu'ils comprennent, mais pour eux, qui n'a aucun intérêt. Mais pour l'enfant de Dieu, pour les disciples, celui qui croit en Jésus, eh bien, c'est quelque chose qui va susciter, on pourrait dire, sa curiosité. Il va chercher à comprendre et le Seigneur va lui révéler sa parole. Et il dit, voilà, pourquoi est-ce que je leur parle en parabole? Et en Luc, en Matthieu chapitre, je sais pas si je l'ai noté ici, quel chapitre, mais il y a un chapitre où Jésus dit, je te loue Seigneur de ce que tu es caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les révélais aux enfants. Oui, Père, dit-il, je te loue que tu l'aies voulu ainsi. Il dit, c'est la volonté de Dieu d'agir ainsi. Et l'apôtre Paul utilisera le même passage d'Ésaïe à la fin d'Actes chapitre 28, où quand il voit les Juifs qui partent, qui ne veulent pas recevoir la parole, il dit, voilà, c'est ça que le prophète a dit, vous entendrez de vos oreilles, mais vous ne comprendrez point, etc. Donc, et il dit, voilà, et dès lors, je me tourne vers les païens. Donc, la parabole, en fait, quand vous la lisez, s'il n'y a pas d'explication, c'est un peu difficile quand même de la comprendre. Heureusement, la parole nous donne l'explication. Mais quand on a l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, elle nous permet de comprendre. Mais la Bible dit ici que, Jésus dit ici qu'il parle en parabole et pour cacher des choses, on pourrait dire un peu ici, et puis pour les révéler, pour révéler les choses du mystère à ses enfants, à ses disciples, à ceux qui lui appartiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré leur endurcissement et leur refus d'écouter la parole, de le recevoir comme Messie. Alors, on va raconter les choses. Et puis, je pense que ceux qui sont curieux, qui vont vouloir savoir les choses, bien, ils vont venir au Seigneur, il va les révéler, mais les autres, ils vont entendre juste une histoire. Ils vont voir juste l'emballage, si vous voulez, quelque part, sans pouvoir saisir la réalité des choses. C'était Matthieu 11, 25-26, où il dit, je te loue, Père, Matthieu 11, verset 25 à 26, où Jésus dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu les voulu ainsi. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Alors, quand on lit la parabole, une parabole, souvenez-vous de cela. C'est pas juste une histoire pour rendre plus facile une vérité. C'est une histoire qui contient une vérité. Et il faut aller chercher quelle est la vérité qui est enseignée dans la parabole ici. Alors regardons la parabole des terrains avec le peu de temps qui nous reste parce qu'on n'aura pas fini. On finira la semaine prochaine. Mais regardons la parabole des terrains. Matthieu chapitre 13. Vous avez lu dans Luc. Chapitre 8, ça y est, dans Matthieu, Marc 4 aussi, je crois. C'est très court, donc je le lis. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce que ne trouvant pas le sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna un fruit, un grain pour 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme ça, imaginez quelqu'un qui enseigne comme ça et puis il dit rien d'autre. Vous êtes laissé à tout seul pour essayer d'imaginer ce que cette histoire illustre. Oui, tout le monde pouvait comprendre ce que c'est. Tout le monde connaît un fermier, tout le monde connaît la semence. Enfin, peut-être pas maintenant. Maintenant, on connaît plus ces choses-là. On connaît des agriculteurs dans les tracteurs. On voit même plus la semence. On sait plus où elle est. Mais à l'époque, les gens, c'était quelque chose qui leur parlait. Et en fait, ce que Jésus raconte n'est absolument pas compliqué à comprendre. On comprend bien que si la semence tombe dans la bonne terre, ça pousse. Si ça tombe dans une terre qui n'est pas bonne, qui n'est pas travaillée, qui n'est pas, dont on n'a pas enlevé les pierres, etc., les mauvaises herbes, les épines, ben, ça ne pousse pas. Soit. Donc ça, c'est pas difficile à comprendre. Donc je crois que, on peut le dire, la parabole en soi n'est pas, compliquée à comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut enseigner à travers cela? Il veut enseigner, forcément, une leçon sur le royaume des cieux, sur les caractéristiques du royaume des cieux. On appelle toutes ces paraboles les paraboles du royaume des cieux. Alors Jésus va donner à ses disciples l'explication. Verset 16, il dit « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Oui, il faut que Jésus donne l'explication. Sans quoi, c'est difficile à saisir, comme ça tout seul. Et il ne donne pas, il y a d'autres paraboles où Jésus n'a pas donné d'explication. Il a donné peu d'explications. Enfin, il y a peu de paraboles où il a donné d'explications que d'autres où il en a donné. Là, c'en est une où il donne vraiment l'explication. Il dit ceci. Il dit, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alors, ma question ici, sur quoi l'explication de Jésus se concentre-t-elle ici? Quand on lit juste le premier, je vais lire un peu les autres aussi. Verset 20, il dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'y a pas de racine, c'est pourquoi il croit pour un temps, et dès que survient la tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Je reprends ma question. Sur quoi est-ce que Jésus se concentre là, non, c'est pas le bon. Quel est le cœur de son explication? C'est quoi la chose importante ici? À votre avis? Donc, la parole, l'écoute de la parole et la réaction. Oui, c'est bien tout ça. Si par exemple, dans la parabole qu'il utilise, on appelle ça la parabole du semeur, c'est ça? Parfois. D'accord? Est-ce qu'il parle du semeur dans l'explication? Il parle du semeur, l'explication. Non, il ne parle pas du semeur, l'explication. D'accord? Est-ce qu'il parle de la semence? Oui, mais est-ce qu'il dit beaucoup de choses de la semence? Est-ce qu'il parle de sa caractéristique? De sa taille, etc.? Non. Il parle de quoi? Il parle des terrains. Des terrains. Et donc, ce sur quoi il se concentre ici, ce sont les terrains. Et bien sûr, avec ce que disait Ibi, Et le terrain est par rapport à quoi? Le terrain par rapport à son état lorsqu'il reçoit la semence. D'accord. Mais tu as raison, Alvin, le terrain, ça représente quoi? Le cœur. Hein? Les terrains représentent le cœur de l'homme. C'est écrit ici, c'est pas Jésus le dit, hein. Regardez, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé où? Dans son cœur. Donc, le terrain ici représente le cœur. Et on a différents états du cœur humain lorsqu'il entend la parole de Dieu. Et c'est ça le point de Jésus. Et qu'est-ce qui revient, regardez, dans pratiquement chaque cas, chaque état. Le verset 19, il dit quoi? Trouvez-moi ce que Jésus redit à chaque fois ici. Verset 19, il fait quoi? Il écoute la parole. Verset 20, il fait quoi? Il entend la parole. Verset 22, il fait quoi? Il entend la parole. Verset 23, il fait quoi? Il entend la parole. OK? Donc, il parle. Chacun de ses cœurs, ils font quoi? Ils entendent la parole. Donc, on comprend que cette semence, c'est la parole de Dieu. Hein. Et ce que Jésus met en évidence ici, c'est le fait d'entendre la parole. Et quoi particulièrement? Il y a quelque chose qui suit, qu'il répète aussi. Il l'a? J'ai entendu? Il reçoit la semence. La semence est reçue. Écoutez bien, regardez verset 19. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, etc., etc. Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, etc., etc. Et verset 23, celui qui a reçu la semence. Si on essaie de résumer tout ça, quel est le point de Jésus ici? C'est dans cette parabole qu'il raconte. Il raconte ce qui est en jeu, c'est l'état du cœur et la manière avec laquelle le cœur reçoit la parole de Dieu. Et il donne une parabole pour exprimer quelles sont les différentes manières avec lesquelles on reçoit la parole de Dieu. Et il représente les différents états des cœurs en général des hommes qui reçoivent la parole de Dieu. Et un seul état est celui qui reçoit la parole de manière profitable. C'est le quatrième état qui est ici. Il parle de celui qui reçoit la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et qui la comprend, et puis elle porte du fruit, un grain, et un grain 100, et ensuite un autre, etc. Alors, on pourrait dire qu'il parle, premièrement, du cœur. Moi, j'ai mis ici, verset 19, du cœur endurci. Le terrain. Le deuxième, on pourrait le qualifier de cœur superficiel. Le troisième, un cœur encombré, au verset 22. Et puis, le dernier, c'est le cœur, j'ai hésité, le cœur préparé ou le cœur malléable, hein, ou spirituellement malléable, on pourrait dire. Ce sont les quatre attitudes de cœur que Jésus décrit ici. Alors, je propose qu'on s'arrête là parce que je vois l'heure, hein, il est déjà 34. Même si je brûle d'envie de continuer, parce qu'on n'est pas encore entré dans le cœur de la parabole, mais on va s'arrêter là. Je vous demande de le relire, hein, d'essayer de méditer là-dessus, de voir ce que Jésus dit de ces quatre états, et puis on reviendra la prochaine fois pour conclure sur qu'est-ce qu'on peut dire de la caractéristique du royaume de Dieu à partir de cette parabole, parce qu'on se souvient qu'ils sont donnés pour donner des caractéristiques sur ce qu'est véritablement le royaume de Dieu. Ce sont les paraboles du royaume. Mais déjà, on peut dire que Jésus souligne que ce qui est important lorsque nous sommes face à sa parole, c'est la manière avec laquelle nous la recevons et nous l'écoutons, l'attitude de cœur avec que nous avons. Le problème, ça n'est pas la semence. Le problème, ça n'est pas le semeur non plus, même s'il peut arriver des fois où, voilà, on fait des fautes, on sème mal, d'autant plus que là, le semeur, c'est Jésus lui-même. Hein. D'accord? Mais ça peut arriver que nous, qui connaissons le Seigneur, on sème aussi la parole, on peut être maladroit, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'attitude de notre cœur lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Et il dit que ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, ce sont ceux qui ont un cœur comme le quatrième terrain qui a été décrit ici. Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité. Je te prie que tu nous donnes, d'avoir un cœur malléable pour recevoir ta parole, la recevoir telle qu'elle est. Et Seigneur, aide-nous à saisir ces choses, que ces paraboles ne soient pas obscures pour nous à cause de notre incrédulité, mais que nous cherchions à creuser, à saisir, à comprendre ce que tu as enseigné, que ces paroles puissent nourrir notre âme pour la gloire de ton nom. Amen.